আলহামদুলিল্লাহ, আসসালাত ওয়াসসালাম আলা নবীনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আহলি ওয়া সাহবিহি মিন তাবাহুম বিহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন, আম্মা বা'দু। নওয়াসিল ফি কিরাআত কিরাআতিনা ফি হাদাল কিতাব আল্লাযী নারজু আন ইয়াকুনা মুবারাকান ফি হুকুকি যাওজাইন। Allons poursuivre. Nous sommes bientôt à la fin du livre. Probablement qu'on aura fini demain, inchallah. Et nous étions rentrés la dernière fois dans certains autres droits qui sont toujours relatifs à ceux de l'épouse. Un qu'on avait oublié dans les douloureux précédents, qui était le fait de l'éduquer et de l'instruire en religion. Ensuite, il y avait... il est entré dans le bab du ta'addud, qui était la polygamie. D'accord? Si Yami se marie sur une thayyib, avec une bikr, elle a droit à 7 jours d'affilée. Et si Yami se marie sur une bikr avec une thayyib, elle n'a droit qu'à 3 jours. On avait dit qu'il devait être juste entre ses épouses, que chacune devait avoir son propre logis indépendant, qui doit être également équitable dans le partage des nuits, et qu'on a dit que la chose principale c'est la nuit. S'il a mis deux femmes dans des pays différents, c'est à lui de trouver comment s'organiser pour pouvoir partager. Et une masala que j'ai oublié de dire, c'est que si jamais ils sont dans deux pays différents, ses épouses, dans deux pays différents, et qu'il est en mesure de ramener une vers un pays, ou deux pays, ou des régions, ou des villes, hein, mais elles sont éloignées, et qu'il est en mesure de rapprocher l'une d'entre elles et qu'elle refuse, alors à ce moment-là, elle n'est plus obligée d'être équitable avec elle. Car là, elle rentre dans le nouchouz, la rébellion. Et la femme qui se rebelle n'a plus le droit, elle perd beaucoup de droits, en fait. Donc à ce moment-là, elle n'est plus en droit de réclamer son partage, car là elle a refusé de le suivre alors qu'il lui proposait une solution qui était facile pour tout le monde, et à la base elle doit lui obéir, sauf si avant se marier ils avaient mis comme condition qu'elle reste là où elle est. Par exemple, elle dit moi je reste là où je suis parce qu'il y a telle raison, il y a mes parents, il y a telle maslaha, je ne veux pas déménager, et qu'il a accepté, là à ce moment là il ne peut pas lui imposer. Si jamais par exemple il lui impose, ou ils n'ont rien dit, la salade, il s'est marié, après il a dit maintenant il faut que tu me rejoignes à tel endroit, moi ça m'arrange que tu vives là-bas, et elle refuse, alors à ce moment-là, elle rentre dans le nouchouz. On avait dit également que le partage se fait même pour la femme qui est malade, ou celle qui a ses menstrues, ou qui a ses lochis, et ainsi de suite. Et qu'il est permis à une femme de donner son jour à une autre de ses co-épouses, comme l'a fait Saouda avec Aïcha. Donc maintenant, on va poursuivre dans ces règles de la polygamie. Taïeb. Donc comme on vient de dire, « وَيَجُوزُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبْ حَقَّهَا مِنَ الْقَسَمْ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ دَرَائِرِهَا أولهن جميعا. Qu'il est permis à la femme de donner son jour, c'est-à-dire à son époux, à une de ses co-épouses, même à toutes, si elle en a plusieurs. Mais que cela ne se fait qu'avec l'agrément de l'époux, qu'il accepte. Car le haq de l'istimta' des rapports, cela c'est un haq qui lui revient. Par exemple, il se peut qu'une femme me dise, moi, je donne mes jours à ma co-épouse. Alors que le époux, lui, veut continuer à la voir. Il dit non. Les jours que tu as, ils restent et je viendrai te voir tel et tel jour comme d'habitude. Mais si jamais il est d'accord, alors il n'y a pas de mal. Et le hadith, le dalil, c'est ce qu'a fait Saouda, radhiyallahu anha, en léguant son jour à Aïcha, car elle craignait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne la divorce. Donc pour rester avec lui malgré tout et lui faire plaisir, elle a donné son jour à l'épouse que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam préférait. et garder ses privilèges de mère des croyantes. Ensuite, il dit qu'il y a un tambih et un tawdih par rapport au malade, l'homme qui est malade. Mas'ala par rapport à l'homme qui est malade. Il dit « In kana al-marid yastati' al-qasam wal-dawran bayna nisa'ihi wa jaba' alayhi wa ishtadda bi waj'uhu wa lam yastati' istazna azwajahu an yumarrad 'inda man sha'a minhunna. » Donc, jamais le malade, l'époux est malade, mais qu'il est quand même en mesure de partager, alors il est obligatoire de rester dans son programme d'aller tel jour chez une, tel jour chez l'autre. Cependant, si la maladie s'amplifie et que la douleur s'accentue sur lui et qu'il n'est pas en mesure de se déplacer, alors à ce moment, il demande la permission à ses femmes de rester chez l'une d'entre elles pour se faire soigner. Comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en restant chez Aïcha lors de sa maladie dans laquelle il a trouvé la mort. Car se déplacer lui était pénible. Et Aïcha était son épouse préférée et ses épouses le savaient. Donc par amour pour lui, elles l'ont laissé se faire soigner et être pris en charge par Aïcha. Radiallahu anha. Yaqul wa yustahab lil zawj an yadur ala nisa'ihi. Qu'il est recommandé à l'époux de rendre visite à ses épouses. فيدنو من كل واحدة من غير مسيس أي جماع لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. Ça veut dire qu'il peut rendre visite à ses femmes, cependant il ne doit pas les toucher, hormis celles dont c'est le jour. Il rend visite à ses épouses. Car Aïcha lui rapporte que le Nabi صلى الله عليه وسلم agissait de la sorte. Mais la particularité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 9 épouses à un moment. Ce qui fait que chacune devait attendre au moins 9 jours avant de voir son jour arriver. Donc de là, pour ne pas que l'attente soit trop longue, il leur rendait visite. Il leur rendait visite et également, elles-mêmes se réunissaient le soir de la venue chez l'une d'entre elles, par exemple, on dit que c'était le soir de Aïcha. Alors les autres épouses venaient également toutes se réunir chez lui, ou plutôt chez Aïcha, afin de pouvoir le voir. Et une fois leur venue, qu'il puisse se retrouver seul avec son épouse, elle partait rentrer chez elle. Nous, on a expliqué, l'une des raisons, c'est la longue attente qu'elles auraient dû subir, due à leur grand nombre. يقول ولا يجب على الزوج أن يسوي بين نسائه في الحب والميل والجماع. Qu'il n'est pas obligatoire à l'épouse d'être équitable entre ses épouses dans l'amour, l'affection, l'attache et les rapports intimes. لأن ذلك ليس في استطاعته. Car cela n'est pas dans sa capacité. لقول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين نسائه ولو حرصتم. فلا تميل كل ميل فتذرها كالمعلقة وإن تصلح وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيما. Et que vous ne saurez égaliser, être juste envers vos épouses, même si vous cherchez à le faire. Mais n'ayez pas trop de penchant pour une, au point d'en laisser l'autre en suspens. C'est-à-dire comme si elle avait ni mari, ni mariée, ni divorcée. Mais que vous conciliez et que vous craigniez, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ce verset est à bien comprendre, car des gens des fois s'en servent pour dire que l'homme, s'il est polygame, ne pourra pas être juste dans la justice qui lui a été imposée. On dit cette justice, elle concerne tout ce qui est don, tout ce qui est dépense, et tout ce qui est partage des nuits. Quant à l'amour et au sentiment, cela est une chose qui n'est pas de sa volonté. Et l'amour est une chose qu'on ne contrôle pas. وقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال عائشة من الرجال فقال أبوها ثم قال من؟ قال عمر بن الخطاب. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est interrogé, qui est la personne que tu préfères? Il a dit Aïcha. Il a dit qui parmi les hommes? Il a dit son père, c'est-à-dire Abu Bakr. Il a dit qui donc après Abu Bakr? Il a dit Omar. Donc Aïcha était sa femme préférée. C'est une chose qui n'était cachée à nul, de personne. Donc il cite une parole d'Ibn Qudama dans le Mughni, rahimahullah ta'ala, qui dit لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجب التسوية بين النساء في الجماع وهو مذهب مالك والشافعي وذلك لأن الجماع طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى. Il dit, Ibn Qudama, que je ne connais aucune divergence entre les savants qu'il n'est pas obligatoire d'égaliser entre les femmes dans les rapports intimes. Et c'est le mazhab de Malik et de Shafi'i. Du fait que les rapports intimes, c'est une chose qui sont liées aux envies et aux penchants. Donc cela n'est pas possible. Car l'homme aura forcément une préférence à une que pour une autre. Et celle pour qui il aura une préférence, eh ben, il aura forcément peut-être plus envie d'elle. Donc là-dessus, il n'est pas obligé d'être égal. Cependant, Ibn Qudama, وَإِنْ أَمْكَنَتْ التَّصْوِيَا بَيْنَهُمَا فِي الْجِمَعِ كَنَا أَحْسَنُوا أَوْلَى فَإِنَّهُ أَبْرَى فِي الْعَدْلِ. Mais cependant, s'il est en mesure d'être juste entre elles malgré tout, qui s'efforce de pouvoir donner autant à l'une qu'à l'autre, il dit alors cela est meilleur et plus proche de la justice. Cependant, s'il ne le fait pas, cela ne lui est pas rendu obligatoire. Et il dit l'auteur, وربما مال إلى بعض نسائه ورغب في جماعها فيجد منها أو يسمع ما يكره فتذهب رغبته وتغيب همته. Il dit parce que par exemple, c'est possible que l'homme, avant d'entrer chez lui, il a envie de son épouse. Il a envie d'elle. Et en rentrant à la maison, il se passe quelque chose qui finalement lui casse son envie. Une dispute, un comportement, une situation. Donc à ce moment-là, il n'a plus envie d'elle. D'accord, les hommes connaissent cela. Qu'en l'espace un court instant même, que la femme fasse une chose qui casse l'envie du mari. Mathalan. Donc, à partir du moment où l'envie n'est pas là, il pourra pas agir. Et il se peut que la veille, avec l'autre, il a eu des rapports, même plusieurs. Donc, il peut pas se forcer là maintenant, l'envie n'est pas là, à accomplir l'acte. Tout comme peut avoir une de ses épouses qui a, à ses yeux, plus de charme et qui lui paraît plus attirante. Ou l'une d'entre elles a un jeu de séduction plus fort. Qui fasse qu'elle puisse lui donner plus envie qu'une autre. Certaines femmes ont des talents dans certains domaines. Certaines sont des meilleures cuisinières. Certaines sont des meilleures, peut-être éducatrices. Certaines sont des femmes plus pédagogues pour les enfants. Et certaines ont plus le côté penchant pour les rapports et savent comment donner envie à leur époux, plus que d'autres. Donc à ce moment-là, l'époux, d'accord, là-dessus, n'est pas obligé d'être égal. Par exemple, il ne peut pas s'amuser à compter chaque bisou qu'il va faire, ou chaque caresse qu'il va faire, ou chaque câlin qu'il va faire, ou chaque mot doux qu'il va dire. Ce n'est pas possible. D'accord ? Non. Donc là-dessus, il faut que les femmes reste compréhensible. La jalousie, bien sûr, on sait qu'elle existe, mais c'est une chose qui reste indépendante de l'homme, et une chose qu'Allah ne lui a pas imposée, et qui n'est pas possible de réaliser. Il dit, وَإِذَا أَرَدَ السَّفَرَ بِبَعْدِ نِسَائِهِ أَكْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. Il a dit maintenant, une nouvelle mas'ala, si un ami doit partir en voyage. Alors à ce moment-là, il doit prendre une de ses femmes avec lui. Comment il doit agir? Il doit faire un tirage au sort. Il doit faire un tirage au sort. Comme cela fut rapporté dans un hadith de Aïcha, قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَكْرَعَ بِنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. Il a dit lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم voulait entreprendre un voyage et prendre une de ses femmes, alors il faisait un tirage au sort. Et celle dont le nom sortait, alors c'est elle qui partait avec lui. Et des fois, il peut prendre une, des fois, il peut prendre deux. Ou plus. Ça dépend du voyage. D'ailleurs, un autre hadith de Aïcha. D'ailleurs, en même temps que ça va aider à faire une correction d'une erreur que j'ai dit dans un ders il y a pas longtemps. On va rectifier ici. Qui est, elle disait que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, faisait le tirage au sort pour choisir ses épouses pour un voyage. Là, il devait en prendre deux. Et c'est tombé sur Aïcha et Hafsa. Donc, il est parti avec les deux. Et bien sûr, pendant le voyage, il passait une nuit avec l'une ou avec l'autre. Et un jour, Hafsa, elle a dit à Aïcha, viens, on change de monture. Toi, tu prends la mienne et moi, je prends la tienne. Et Aïcha, elle a dit d'accord. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait voulu Aïcha. Et vous savez, les femmes étaient couvertes. Et sûrement qu'elles devaient avoir le même gabarit, la même physionomie à peu près. Ce qui fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti avec la monture de Aïcha, pensant que c'était Aïcha et en fait c'était Hafsa. Et lorsque Aïcha a voulu le rattraper, elle n'a pas pu. À ce moment-là, elle était prise d'une crise de jalousie intense. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle a mis ses pieds dans des fourrés en disant « Ya Rabbi, sallit alayha akraban aw hayyatan tarda'uni wa la astati'u an akula lahu shay'an rasuluk la astati'u an akula lahu shay'an » Donc elle a dit « Oh Allah, envoie un scorpion ou un serpent qui me pique. » Car c'est ton messager et je ne peux rien lui dire. Comment cela? C'est-à-dire ce qu'elle a, ce qui s'est passé, elle ne pouvait pas reprendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui reprocher ce qui s'est passé. Car à la base, l'erreur, on va dire l'erreur, c'est faite de leur faute à elles. Elles ont échangé leur monture et lui, il est parti avec Hafsa. Donc regardez, elle n'a pas fait de scandale, elle n'a pas fait de remontrance ou de réprimande. Elle a pris sur elle-même, ça a été dur pour elle, au point de vouloir en mourir, de savoir que son époux est parti avec sa co-épouse, alors ça devait être elle, à ce moment-là. Malgré tout, elle a surmonté la chose. Et là, c'est une faïda importante qu'il faut retenir lorsque la femme trouve de son époux des choses qui lui déplaisent. Légitimes, comme un manquement dans ses droits, comme un comportement parfois déplaisant, et ce qui s'ensuit. Il y a un hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu et rendu hasan par l'Albani. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Alla ukhbirukum bi nisa'ikum min ahli al-jannah al-wadud al-wulud al-walud al-audud ala zawjiha allati idha azat aw udhiyat ja'at hatta ta'khudha yad zawjiha thumma taqul wallahi la azuk ghamdan hatta tarda. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne vais-je pas vous informer de vos femmes qui sont parties, qui font partie des femmes du Jannah. Les femmes qui font partie des femmes du paradis. Il a dit, celle qui est affectueuse, celle qui est féconde et celle qui revient vers son époux, qui fait les premiers pas vers son époux. Celle qui, lorsqu'elle-même agit mal envers son époux, ou alors qu'elle subit de mauvais agissements de son époux, malgré tout, c'est elle qui vient vers lui. Et elle pose sa main dans la sienne et elle dit, je ne goûterai pas le sommeil tant que tu ne seras pas satisfait. Allahu Akbar. Donc ce comportement à avoir pour la femme, c'est un comportement des sifat des femmes du paradis. Celle qui fait un effort sur elle et qui fait les premiers pas qui va son époux, même si elle a tort, alors malgré tout, elle fait en sorte que son époux s'apaise et qu'elle lui montre qu'elle est avec lui. Et que si jamais c'est elle qui a tort, alors elle fait le premier pas, et elle vient vers lui, et elle fait en sorte que, également, il lui pardonne, et que la colère se dissipe. Ça demande jihad nefs, car en général, les gens sont amenés à vouloir leurs droits, les femmes sont souvent coléreuses, d'accord, et amenées à se curer avec leur époux, pour telle et telle raison. Des fois c'est légitime, des fois ça ne l'est pas. Et quoi qu'il en soit, même si c'est légitime, il n'est pas permis à la femme de faire le hajj à son mari. On a pris le hadith auparavant, que si elle fait le hajj de son mari, que ce soit pour avoir des rapports ou autres, qu'il l'appelle, elle ne lui parle pas, elle ne lui répond pas, elle lui tourne le dos, que les anges la maudissent, et que Allah Azzawajal est en colère contre elle, qui permet les grands péchés. Et les ulama disent, cela est interdit pour elle, sauf dans des cas particuliers, comme celui où elle serait privée d'un droit qu'elle a. Par exemple, son mari ne dépense pas pour elle. Masalan. Un droit indispensable qu'elle a, il ne lui donne pas. À ce moment-là, elle peut agir de la sorte. En guise de réponse, en fait. Mais quoi qu'il en soit, même si cela est une chose qui lui est, qui peut être légitime, les ulama donc déconseillent de le faire. Car souvent, ça va amener à ce que le mari s'empire. Que la situation s'aggrave. Donc, le haoulet pour elle, ben, c'est de prendre ce hadith qui amène à voir les caractéristiques de la femme du paradis. Elle fait les premiers pas et revient vers lui. Si elle a tort, elle s'excuse. Et si elle a mis la tort, elle lui pardonne et elle lui montre qu'elle est là, ouverte, indulgente, tolérante, douce et affectueuse. Et c'est pour cela que j'avais écrit dans, il n'y a pas longtemps, vous avez pu le voir sur ce que j'ai pu diffuser sur mon compte, que le fiqh d'une femme, le ilm d'une femme, la taqwa d'une femme, ce n'est pas à travers tout ce qu'elle aura comme science apparente de hajda du Coran, elle a le Coran par cœur, elle a Bukhari par cœur, elle a tel livre par cœur, elle a étudié tel et tel livre. Ce n'est pas ça qui va le montrer en réalité. Ça, c'est noble qu'elle ait tout cela. D'accord? On ne dit pas qu'elle ne doit pas étudier. Mais on dirait, en réalité, tout ce qu'elle aura acquis comme ilm, cela va apparaître à quel moment? Pas pendant un ders, pas devant une enseignante, pas durant une conférence qu'elle pourrait faire pour les femmes, ou un ders qu'elle ferait pour les femmes, ou non. Non, ça va apparaître dans son comportement avec son époux. Quand on avait expliqué que son époux est son jannah ou son nar. Donc elle sait sa priorité. Son nar, il sera son feu si elle le rend mécontent et qu'elle n'aura pas les droits comme elle se doit. Il sera son jannah si elle le satisfait et qu'elle le rend heureux. Et malgré tout, même si elle, il a tort, comme le prouve le hadith, elle fait en sorte de le satisfaire. Quand on sait qu'une chose t'amène au paradis, tu la priorises. Et quand tu sais qu'une chose te causera le feu, cette chose-là, tu l'évites autant que possible. Donc pour la femme, cela apparaîtra comment? Après le tawhid, après le droit d'Allah de son messager, avec son époux. C'est là que ça va se voir. Celle qui a vraiment du fiqh et son haut niveau de taqwa. Non. Yaqul wizesafara. Ah non, et aussi il a dit que si jamais l'époux voyage en prenant une épouse sans faire de tirage au sort, il aura commis un péché. D'accord? Sauf dans le cas où il fera un voyage en particulier concernant cette épouse. Par exemple, une de ses épouses, elle est malade. Il part pour elle. À ce moment-là, ce n'est pas pareil. D'accord? Ce n'est pas pareil. Elle doit faire une visite auprès de ses parents qui habitent loin. Elle est malade ou elle a un besoin. D'accord? Donc à ce moment-là, il part avec elle. Et il n'y a pas de tirage au sort. Sans quoi, le tirage au sort est obligatoire, sauf si les co-épouses sont d'accord pour que, mathalen, elles disent toutes, nous, on voit que c'est mieux que tu partes avec Fulana. Mathalen, ou même des fois, le choix n'est pas possible. Il doit voyager, et pour ce voyage, une des épouses est plus appropriée pour l'accompagner qu'une autre. Par exemple, t'en as une, elle a plein d'enfants. Il ne peut pas tous les prendre. Et il ne peut pas laisser les enfants tout seuls. Ou alors il y a un voyage à faire et l'une d'entre elles a les caractéristiques qui correspondent à son voyage. Par exemple, il y a, il a besoin de traduction. Il y en a une qui est bilingue. Par exemple, il n'est pas arabophone. L'une de ses épouses, elle est arabophone. Et il a un voyage à faire dans un pays arabe. Mathalan. Donc il faut privilégier celle qui est en mesure de lui apporter plus de maslaha. Avec l'accord de l'autre. Mathalan, il est malade. Il fait un voyage, il est malade. Et t'en as une, elle a des connaissances médicales. Elle a été infirmière, elle a été ainsi de suite. Elle sait comment faire. Elle sait de prendre en charge des soins de l'époux. L'autre ne peut pas. Donc à ce moment-là, c'est elle qui sera prioritaire. Car là, il y a un besoin, il y a une haja. Et la masala qui est importante, c'est que lorsque l'homme part en voyage avec ses épouses, ou une de ses épouses, alors il n'a pas à rattraper les jours qu'il a fait en voyage quand il revient. S'il a fait un tirage au sort et qu'il revient de voyage. Alors, les jours passés en voyage, il n'a pas les rattrapés. Car le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais rattrapé les jours qu'il a fait en voyage avec ses épouses. Donc, il n'y a pas de dalil là-dessus. Hormis, dans deux cas. Lequel? S'il voyage pour une femme en particulier, pour une hajja particulière, par exemple, il emmène telle femme, pour telle raison, des soins qu'elle doit prendre, non, ses parents, quoi. Là, à ce moment-là, comme c'est pour elle qu'il est parti, il doit rattraper pour les autres. Ça, c'est de un. De deux, c'est une mas'ala qui revient au khilaf dans la période du voyage. Vous savez, c'est une mas'ala dans laquelle il y a le plus grand khilaf, le voyage. Pendant combien de temps la personne est considérée comme étant voyageur? Est-ce que c'est 4 jours? Est-ce que c'est 19 jours? Ou est-ce que c'est indéfini tant que la personne est en voyage? D'accord? La plupart des ulama disent c'est 4 jours. Si tu sais que tu pars en voyage quelque part et que tu vas rester plus de 4 jours, alors tu deviens résident. Et à ce moment-là, ça applique sur toi les règles de tout le monde. La salat, tu l'as fait en groupe, avec tout le monde, sans la raccourcir, sans les regrouper. Ça, si jamais tu sais que tu vas faire plus de 4 jours. Ça, c'est l'avis le plus fréquent. Deuxième, c'est 19 jours. Si tu vas quelque part, tu sais que tu vas rester plus de 19 jours là-bas, alors à ce moment-là, tu es considéré comme étant résident. Et un autre avis, c'est celui que si tu sais que tu es quelque part et que tu n'es pas chez toi et que tu ne vas pas rester, alors tu es voyageur tant que tu es dans cette situation, même si tu restes des années. Ça, c'est un avis de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. L'auteur, lui, est d'avis des 4 jours. Donc il dit, si jamais tu pars en voyage avec ton épouse et que tu restes plus de 4 jours, alors tu n'es plus voyageur, tu es résident. Et tout ce que tu auras commis comme, tout ce que tu auras fait comme jour au-delà des 4 jours, cela tu le rattrapes. Par exemple, tu es resté 7 jours, tu as fait 3 jours de plus, ces 3 jours tu les rattrapes avec les autres. D'accord, tu as fait 10 jours, tu vas rattraper combien? 6 jours avec les autres, tu les rattrapes. Fahimtum? Donc ça, c'est une masala qui revient à l'avis qui a été choisi par la personne. Et bien sûr, l'avis, on le choisit pour ce qui rapproche d'Allah et pas pour ce qui convient à nos envies et nos passions. Et selon l'avis que la personne l'aura choisi, alors le voyage s'applique à les règles. S'il a choisi 4 jours, au-delà des 4 jours, il rattrape avec ses épouses. S'il a choisi 19 jours, ce qui est au-delà des 19 jours, il rattrape avec ses épouses. Et si jamais il a choisi l'avis où c'est indéfini, alors il n'a pas rattrapé à ce moment-là. Non. Et on a expliqué... que si une femme refuse de partir avec son époux, alors que son nom est tombé dans le tirage au sort, ou alors qu'elle ne veut pas passer la nuit avec lui, son tour tombe, il n'a pas à rattraper. Son tour tombe et il n'a pas à rattraper. Et il dit sans divergence entre les ulama. Donc là, c'était des masaïl qui étaient relatives, d'accord, à la polygamie. Donc là, il revient maintenant sur les hukouk. Là, c'est le 15e maintenant. Toujours dans la polygamie. Hel al-shajar wal-khisam bina adarratayn ou adara'ir. Qu'il doit régler les conflits qu'il y a entre ses épouses. S'il y a son conflit, il doit venir et être juste et régler le conflit. Kama ja fi hadith Anas radhiyallahu anhu. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam عند بعض نسائه فارسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها الطعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في لق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أوتي بالصحفة من عند التي وفي بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت رواه البخاري. Il a dit qu'une fois le Nabi صلى الله عليه وسلم était chez une de ses épouses, c'était Aïcha. Et une autre de ses épouses, c'était Sauda, avait envoyé un plat pour le Nabi صلى الله عليه وسلم dans la maison de Aïcha par le biais d'un valet. Et Aïcha, prise de jalousie, a tapé dans la main du valet. D'où le fait que, par la suite, le plat soit tombé, soit brisé, avec la nourriture. Donc là, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, votre mère est jalouse. C'est-à-dire, Aïcha est jalouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé la nourriture. Il a demandé de ramener un plat de la maison de Aïcha. Et il a donné au valet, il lui a dit, repars avec ce plat. C'est-à-dire que, pour être juste, il a pris un plat à Aïcha et l'a donné à Saouda pour régler le conflit. Et une autre fois, il y a eu une petite dispute entre Aïcha et Saouda également. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec Saouda et Aïcha est venu avec un plat, cette fois-ci. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mangé. Et elle a dit à Saouda, mange du plat. Saouda elle a dit, non, je ne veux pas manger. Aïcha elle a dit, mange du plat. Saouda elle a dit, je ne veux pas manger. Aïcha elle a dit, mange du plat ou je vais te barbouiller le visage avec le plat, avec la nourriture. Et Saouda n'a pas voulu manger. Aïcha a mis sa main dans le plat et elle a étalé de la nourriture sur le visage de Saouda. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rigoler. D'accord? Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris la main de Saouda, l'a mis dans le plat et il lui a passé la main sur le visage de Aïcha, la nourriture. Et l'a dit, comme s'il avait dit en fait, ex aequo. Vous êtes ex aequo toutes les deux. Taïeb. Thumma, il y a eu la salade qui a été appelée et il a dit, allez, suivez vos visages. Et après, il est parti. Et cela, bien sûr, comme on dit, bon enfant. Ça l'a fait rire, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, bon, si vous faites ça, les frères, je pense que ça va finir en bagarre. D'accord? Ça, c'est des comportements qui, chez les gens qui avaient vraiment de la haute noblesse. Mais aujourd'hui, entre deux épouses, si ça se passe, et qu'il y en a une qui tâle le visage de l'autre et de la nourriture, je pense que ça va partir en bagarre. Donc ça, c'est à éviter. D'accord? Mais c'est juste pour montrer si jamais cela arrive, de rester équitable. Et si jamais vous voyez que vos épouses, elles arrivent, alhamdoulilah, à supporter ces situations-là et à rigoler également, bah, alhamdoulilah, c'est beau. Mais je pense que ça doit être rarissime aujourd'hui. Très rare de pouvoir vivre ce genre de situation. Sauf que ça finisse très mal. Donc à éviter. Taïeb. Donc là, on avait dit qu'il doit régler les conflits. Thumma qala sadis achar. 16e droit. Et le dernier droit de l'épouse maintenant. Là, on a fini la polygamie. Là, il part de l'épouse en soi. 16e droit. Haqqaha ou haqquhunna min miras et zouj. Donc maintenant, c'est quoi? C'est le droit de l'héritage des biens de l'époux. On avait dit, parmi les droits de l'époux, c'est qu'il hérite combien? Nifs. La moitié des biens de l'épouse, sauf si elle a des enfants. Si elle a des enfants, alors le mari hérite du quart des biens de l'épouse. Maintenant, c'est quoi? C'est combien hérite l'épouse de son époux? Quand la ta'ala, وَلَهُنَّ أَرُبُعَ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَنَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُمُنْ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Que elles ont droit au quart de ce que vous laissez si jamais vous n'avez pas d'enfants. Mais si vous avez des enfants, alors elles auront droit au huitième de ce que vous aurez laissé. Et cela après que le testament ait été respecté ou alors que les dettes auront été rendues, remboursées. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait, avant de donner l'héritage aux gens, on fait passer les choses prioritaires comme le testament, ce qui amène la personne aura légué des biens à des gens, autres que les héritiers. Hein, parce que les héritiers, il n'y a pas de testament pour eux. Eux, ils héritent automatiquement. Par exemple, tu dis pas, je donne à mon fils tant, à ma fille tant. Non. Ton fils, ta fille, ton père, ta mère, leur part dans le Coran, elle est décrétée. C'est juste si tu donnais à tierce personne. On l'avait expliqué la dernière fois. Donc, une fois que tout cela a été donné, ce qui reste comme argent, c'est partagé. Selon les règles de l'héritage. J'avais déjà fait des audios sur les règles de l'héritage. Et donc là, l'épouse ou les épouses, elles ont droit au quart de ce que l'époux a laissé. Est-ce que si chacune elle a un quart? Non, c'est le quart elle est partagé, si elles sont plusieurs. Si elle est toute seule, elle a le quart entier pour elle. Si elles sont plusieurs, ce quart est partagé en mesure du nombre des épouses. Si elles sont deux, le quart est partagé en deux. Si elles sont trois, il est partagé en trois. Et si elles sont quatre, il est partagé en quatre. Ça, c'est dans le cas où l'homme n'a pas d'enfants. Si elle a des enfants, elles auront... Alors, c'est le huitième. Si elle est seule, elle aura un huitième, elle est toute seule. Si elles sont deux, ce huitième sera partagé en deux. Si elles sont trois, il sera partagé en trois. Si elles sont quatre, il sera partagé en quatre. Voilà en ce qui concerne les droits de l'épouse Tayyib. Et là, on avait cité auparavant une faïda sur les droits des soins à prodiguer à l'épouse, est-ce que cela est obligatoire pour l'époux de prendre en charge les soins médicaux de l'épouse? On avait dit que l'avis prépondérant, c'est que oui. Et subhanallah, il y a quelques jours, j'ai écouté une fatwa de Cheikh Al-Hajouri, mon cher Cheikh Yahya, qui lui voit que non, que ce n'est pas à l'époux, ce n'est pas obligatoire pour lui de prendre en charge les soins de l'épouse. Car il a dit, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au propos des droits de l'épouse, il a dit, أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضربها في الوجه ولا تقبحها. Il a dit, c'est quoi les droits de l'épouse? Il a dit que tu la nourrisses quand quand tu te nourris, que tu la vêtisses lorsque tu te revêtis, que tu ne la frappes pas au visage et que tu n'invoques pas que Allah l'en le dise, si vous vous rappelez bien. Il a dit, ce hadith-là ne parle pas des soins médicaux. Donc lui, il voit que ce n'est pas obligatoire pour l'époux et que si jamais il est malade, il dit que c'est wali de prendre en charge des soins. C'est-à-dire le père ou celui qui, de base, a été le tuteur de la femme. Mais il a dit, quoi qu'il en soit, il a dit, c'est mieux qu'il le fasse. Cela est de meilleur comportement. Mais si elle ne peut pas, on ne peut pas lui imposer. Tel est l'avis de Cheikh Al-Hajouri sur cette question-là. Et d'autres ulama pensent comme lui. Non. Taïb. Donc là, on a fini par rapport à ce ders. Et demain, Inch'Allah, je pense que ce sera en un seul ders. Ou peut-être deux, on verra. Naam. Les droits communs. Les droits communs des époux. Naam. Taïeb. Fanaktafi biyad al-qadr. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.